des questions.
Il faut se penser la nature exécutive mondiale. Alors, est-ce qu'il y a une nature exécutive dans les autres plans aussi?
Les autres plans, tu veux dire?
Dans le mental et plus...
Le mental appartient à la... La nature terrestre contient non seulement la matière, le physique dans ses différents plans, mais le vital et le mental. Tout ça fait partie de la nature terrestre.
Les autres?
Après, non. Et après, il n'y a plus de... Il n'y a plus de nature. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette distinction. Ça appartient essentiellement au monde matériel, tel que c'est décrit là. Mais comme il dit, ce n'est pas toute la vérité, il a simplement donné le... ce qui était donné, un résumé de ce qui est expliqué dans la Gita. C'est ce que la Gita dit. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Seulement, comme il dit, ça peut être utile. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une confusion entre les différentes parties de l'être, ça vous aide à distinguer entre ce qui est supérieur et ce qui est inférieur, ce qui est tourné vers le divin et ce qui est tourné vers la matière. C'est une conception qui est utile psychologiquement. Mais... En fait, c'est tout. Ce n'est pas comme ça que les choses sont. C'est tout. Quelque chose par là. Rien.
Écoutez, la nature n'est pas consciemment intelligente.
Ça veut dire qu'il y a une intelligence qui agit en elle et à travers elle, dans son action, mais qu'elle n'est pas consciente de cette intelligence. Mais c'est comme ça, on peut comprendre ça pour les animaux. Les animaux, prenez par exemple les fourmis. Elles font exactement ce qu'elles doivent faire. Tout leur travail et toute leur organisation est quelque chose qui ressemble vraiment à une perfection. Mais elles ne sont pas conscientes de l'intelligence qui les organise. Elles sont mues mécaniquement par une intelligence dont elles ne sont pas conscientes. Et même si on prend les animaux les plus développés, comme par exemple les chats ou les chiens. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Un chat qui éduque ses petits l'éduque aussi, une chatte, n'est-ce pas, l'éduque ses petits aussi bien qu'une femme, quelquefois mieux, qu'une femme n'éduque ses enfants. Mais elle est poussée par une intelligence qui la fait mouvoir automatiquement. Elle n'est pas consciente de l'intelligence qui lui fait faire les choses. Elle n'en est pas consciente, elle ne peut pas changer quoi que ce soit au mouvement par sa propre volonté à elle. C'est quelque chose qui la fait agir mécaniquement, mais sur quoi elle n'a aucun contrôle. Si un être humain intervient et éduque la chatte, il peut lui faire changer son action, mais c'est la conscience de l'être humain qui agit sur elle. Ce n'est pas sa conscience à elle. Elle n'est pas consciente de l'intelligence qui l'a fait agir. C'est ça que ça veut dire. Et cette espèce de conscience de soi, cette possibilité de se regarder faire, de comprendre pourquoi on le fait, comment on le fait, et par conséquent d'avoir un contrôle et de changer l'action, ça appartient au mental et en propre à l'homme. C'est ça qui est la différence essentielle entre un homme et un animal. C'est qu'il est conscient de lui-même, qu'il peut se rendre compte de la force qui le fait agir, et non seulement s'en rendre compte, mais la contrôler. Mais tous les gens qui se sentent poussés par une force et qui disent « j'ai été obligé de le faire » sans la participation de leur volonté, c'est qu'ils ont encore des racines profondes dans l'animalité, c'est-à-dire dans l'inconscient. On ne commence à devenir un être humain conscient que lorsqu'on sait pourquoi on fait les choses et qu'on est capable de changer son action par une volonté déterminée. Qu'on a un contrôle. Avant d'avoir un contrôle, on est encore plus ou moins un animal. Avec un petit embryon de conscience qui est là, qui commence. Une petite flamme qui vacille et qui essaye de s'allumer et qui est soumise au moindre souffle qui part.
Fait exactement ce qui lui est imposé par les chefs. Alors, comment la déformation arrive? Comment est-ce que la nature déforme?
Oui, j'attendais ça quand j'ai lu cette phrase. Je vous dis que c'est la théorie du Gita, que ce n'est pas la vérité. Moi, j'ai entendu ça quand j'étais en France. Et ce sont les gens qui expliquent le Gita en disant qu'il n'y a pas de lumière sans fumée, il n'y a pas de flamme sans fumée, ce qui n'est pas vrai. Et basé là-dessus, ils disent la vie est comme ça et vous ne la changerez pas, elle est comme ça. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de passer du côté de Prakriti au côté de Purusha. Et devenez la force gouvernante au lieu d'être la force gouvernée. C'est tout. Mais ça, c'est comme il le dit à la fin, c'est la théorie de la Gita, c'est comme ça que c'est expliqué là, mais ce n'est pas toute la vérité. C'est seulement une façon partielle de voir les choses. utile, pratique, commode, mais pas totalement vrai.
Il y a des disciples de Shwaravinda qui prêchent le message du Gita pour le salut du monde.
C'est leur affaire. Si ça leur fait plaisir, moi ça m'est égal.
Mais cela n'a pas aucun rapport avec la yoga de Shwaravinda.
On ne peut pas dire pas aucun rapport, mais c'est une... C'est une étroitesse, c'est tout. Ils ont saisi un coin et ils en font le tout. Mais ça arrive à tout le monde. Qui est-ce qui peut saisir le tout, je voudrais bien savoir. Chacun saisit son coin et il en fait son tout. Hein? Mais vous êtes un propagandiste. Pourquoi voulez-vous les convaincre? S'ils sont contents comme ça, laissez-les alors contents. S'ils viennent vous dire ça, c'est la théorie de Shobindo, vous avez le droit de leur dire non, vous vous trompez, c'est la théorie de la guitare, c'est pas la théorie de Shobindo, c'est tout. Mais vous ne pouvez pas leur dire, vous devez en changer si ça leur fait plaisir. Qu'ils le gardent. C'est très commode, ça. J'ai rencontré ça en France, à Paris, avant de venir dans l'Inde. Et j'ai vu à quel point c'est pratique. C'est très, très commode. D'abord, ça vous fait saisir une vérité très profonde et extrêmement utile, comme j'ai dit. Et puis après, ça vous met... à l'abri de toute nécessité de changer votre nature extérieure. C'est tellement commode, n'est-ce pas? On dit, je suis comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Je me détache d'elle, je la laisse faire tout ce qu'elle veut. Je ne suis pas cette nature, je suis le Purusha. Qu'elle aille son propre chemin, après tout, je ne peux pas la changer. C'est extrêmement commode. Mais c'est pour ça que les gens adoptent ça. Parce qu'ils s'imaginent être dans le Purusha, mais à la moindre égratignure, ils retombent dans leur prakriti, là, en plein, et puis ils se mettent en colère, ou ils sont désespérés, ou ils tombent malades. J'ai entendu quelqu'un qui avait pourtant réalisé justement cette espèce d'identification avec le Purusha et qui dégageait une atmosphère très remarquable. Mais il traitait de révolutionnaires dangereux tous les gens qui voulaient changer quelque chose à la nature terrestre. Il les appelait des révolutionnaires dangereux. Quand il voulait que les choses de la terre soient changées et que, par exemple, la souffrance soit abolie, ou qu'en dernière limite, qu'on supprime la nécessité de la mort, qu'il y ait une évolution. Une progression lumineuse et qui ne nécessite pas la destruction. C'était ceux qui pensent comme ça sont des révolutionnaires dangereux. Au besoin, il faudrait les mettre en prison. Mais quand on veut être un sage, sans même devenir un grand yogi, il faut pouvoir regarder toutes ces choses avec un sourire, pas en être affecté. Vous avez votre propre expérience. Tâchez de la rendre aussi vraie et aussi complète que possible, mais laissez chacun à son expérience. À moins qu'ils ne viennent vous trouver comme un gourou et qu'ils vous disent maintenant « Conduisez-moi vers la lumière et la vérité », alors là, votre responsabilité commence. Mais pas avant. Rien là-bas, pas de curiosité.
Quelle est la différence entre le divin unique et la lumineuse volonté?
La lumineuse volonté est un attribut du divin unique. Il n'y a pas de différence. L'un est une partie de l'autre, c'est tout.
Distinguer entre les deux. Hein? Tu as dit de distinguer entre les deux.
Non. Pas distinguer entre ces deux-là. Pas la lumineuse volonté et le... Il a dit distinguer, il n'a pas dit. Il décrit la chose du Gita en disant que le Gita vous dit de distinguer entre la puissance exécutrice et la volonté créatrice. La volonté qui conçoit et la puissance qui exécute. C'est entre les deux qu'il faut distinguer. C'est tout ce que nous venons d'expliquer maintenant, tout au long, en détail. Ce que tu dis là, ce n'est pas écrit. Tu peux regarder, c'est pas écrit. C'est pas ça qui est écrit, c'est autre chose. Tu as mal compris la phrase. Sa langue le débranche.
Shalinda dit que le Gita s'arrête à la frontière des mentales supérieures.
Quoi?
Gita s'arrête à la frontière des mentales supérieures. Il ne va pas jusqu'au supramental. Mais le mystère secret de soumission au Seigneur est le mystère central qui conduit au supramental.
Qu'est-ce qu'il a été pêché là qui...
J'ai noté. Le Gita par son silence de sa conclusion occulte s'arrête à la frontière du mental supérieur. Et cependant, son secret d'identité dynamique, et non pas seulement statique avec la présence intérieure, en vérité,
il bafouille.
Est en vérité le secret central. Cette soumission est le moyen indispensable pour le changement supramental. Alors pourquoi, en suivant le Gita, on n'attrape pas ça pour arriver dans la voie de la yoga supramental?
Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Mais il y a beaucoup de gens qui croient aussi, qui suivent le yoga de Sri Aurobindo et qui n'atteignent pas la vérité suprême. Ça ne dépend pas beaucoup du chemin que l'on suit, ça dépend de la capacité que l'on a.
Soumission au Seigneur, on n'attrape pas ça. Soumission absolue au guide, Seigneur et habitant divin, dans notre nature, qui est en vérité le secret central.
Oui.
Et cette soumission.
Mais oui, mais. Non, c'est ça qui est décrit dans le guide. Que vous devez vous donner entièrement, n'est-ce pas, là. Dans le Gita, Krishna est le guide et le maître intérieur, et que vous devez vous donner entièrement à lui, faire une soumission totale, c'est écrit en toutes lettres. Et alors, je vous dis, les gens professent un enseignement ou un autre, mais ils ne sont pas capables toujours de le suivre. Ils vont jusqu'à un certain point, ils s'arrêtent. Alors, je ne comprends pas votre difficulté. Vous voulez dire que les gens qui sont convaincus de la vérité de l'enseignement du Gita ne réalisent pas cet enseignement?
L'enseignement de soumission.
Oui, enfin, l'enseignement qui est contenu dans le Gita. Et ça vous étonne? Mais il y a de par le monde des quantités innombrables de gens qui sont convaincus de la vérité d'un enseignement, mais ça ne les rend pas capables de le réaliser. Par exemple, tous les bouddhistes, les millions de bouddhistes qui sont dans le monde et qui professent que le bouddhisme c'est la vérité, est-ce que ça les rend capables de devenir comme un Bouddha? Certainement pas. Alors qu'est-ce qu'il y a là d'étonnant? Je vous ai dit pourquoi il y a des gens qui acceptent ça, de même après avoir lu et étudié les choses de Sri Aurobindo, pourquoi ils acceptent, ils tiennent, ils s'accrochent à cet enseignement du Gita, c'est parce que c'est confortable, qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts pour changer sa nature. La nature est inchangeable. Par conséquent, vous n'avez pas besoin du tout de penser à la changer. Simplement, vous la laissez faire. Vous la regardez du haut de votre tour d'ivoire et vous la laissez faire tout ce qu'elle veut en disant « ce n'est pas moi, je ne suis pas ça ». C'est très commode, ça peut se faire très rapidement, au moins prétendre que ce soit. Comme j'ai dit, dans la pratique, on est rarement consistant avec sa théorie. Si vous avez mal à la gorge, ou que vous avez mal à la tête, ou que vous vous êtes écorché le pied, vous commencez à crier, ou à vous plaindre, ou à gémir, et par conséquent, vous n'êtes pas détaché. Vous êtes tout à fait attaché et lié étroitement. Mais ça, c'est un fait très humain. Ou bien quand quelqu'un vous dit quelque chose de désagréable, on est bouleversé. C'est comme ça. Parce que vous êtes étroitement attaché à la nature, quoique vous ayez déclaré que vous ne l'êtes pas. C'est tout. C'est tout. Ça suffit. Hein? Bon.